Vous entrez dans les ateliers de la nuit. Alfred de Vigny la décrivait de cette façon. Dans l'angle du sourcil sont blottis cinq diablotins suspendus à l'extrémité d'une scie pour qu'elle s'enfonce plus avant dans la tête. C'est le tout début de ce qui va vous faire dire « j'ai mal à la tête », le tout début de la migraine. De l'angle du sourcil, elle ne partira pas comme ça. C'est une souffrance que l'on promène avec soi, qui colle au front, au corps. Et le défi est justement sa description. Les diablotins et la scie sont une tentative. Mais quand la migraine arrive, au-delà du mal de tête, quel mot choisir pour décrire au mieux cette sensation qui fait fermer les yeux, éteindre toute image? Cette douleur qui empêche l'esprit d'aller et venir en liberté. La migraine produit un monde. Elle modifie le corps, le fait se plier ou s'allonger, elle lui impose une forme. Si on abandonnait les mots, si on choisissait les sons, si on projetait la migraine dans l'espace pour s'en débarrasser à jamais, la mettre hors de soi, la faire exister ailleurs, l'extirper des oreilles et du front, il y aurait un vocabulaire particulier et il serait sonore. Avant d'atteindre, quand cela s'arrête, le silence. Pensez alors à quel son ressemblerait votre migraine. Donnez-lui une forme, visualisez-la et projetez-la loin dans la pièce. Ce n'est alors plus un destin. La scie et les diablotins sont renvoyés au loin. Loris Bardi, lui, avoue que la migraine ne se décolle pas de sa silhouette depuis plus de 20 ans, comme une ombre. Elle est son propre corps sans en avoir toutes les facultés, tous les sens. Il a senti le besoin de l'écouter. Pour une maladie impalpable, il a pensé au son. La douleur peut-elle être une source d'inspiration? Il a invité d'autres personnes migraineuses à retranscrire cet état en utilisant le jeu littéraire et la composition musicale. Il y aurait, à partir de ce soir, une esthétique de la migraine. Comme une ombre, un essai radiophonique de Loris Bardi, réalisation Lionel Quentin.
Ce qui m'a en effet intéressé dans cet objet qu'est la migraine, c'est que je me suis aperçue en travaillant sur un certain nombre de textes, mais aussi sur un certain nombre d'images, que la migraine n'était nullement un objet qui aurait appartenu de manière immédiate et privilégiée à la médecine. Que c'est un objet aussi qui est mobilisé par un certain nombre d'arts, la littérature, l'iconographie, peut-être la musique. Ça, c'est une question sur laquelle il faudra revenir peut-être. Qui intéresse aussi la spiritualité, qui intéresse d'autres sciences comme l'astronomie, voire certaines techniques comme l'art vétérinaire. Donc du coup, ça pose une vraie question philosophique.
Comme une ombre. Tout commencerait par une odeur de fioul et de marée. J'ai toujours détesté ces ambiances de quête-port de commerce, où il n'y a que des grues et des conteneurs sur des parkings vastes comme le Gobi. Pas un seul voilier en vue pour aiguiser l'imagination tropicale. Mon pouls s'est accéléré lorsque la porte arrière du ferry a écrasé le béton, pour avaler les voitures prêtes à faire la traversée. Elle rentre en file indienne dans cette grande gueule de monstre. Je suis dans les derniers. La patience n'est pas mon fort. De nos jours, plus personne ne roule en Super 5 bleu. J'ai l'air d'un con. La peinture écaillée est la rouille d'une portière de vieille Renault 5. Voilà ce que je suis. Un port de commerce. Une traversée en mer, un point de corrosion, comme ils disent. C'est ça, un point de corrosion. Je grince, je ne passe pas le contrôle technique, je le passerai jamais. À la benne, à la casse, la bagnole. Est-ce que quelqu'un ici peut me dire combien de temps va durer cette traversée? Une heure? Une journée? Une semaine? À quoi bon? Cela ne changera rien. Les eaux sont noires. Il n'y a que cela de tangible. Noire et montagneuse, comme si ce n'était pas la mer. On me dit que l'équipage change de quart. Autant s'attendre alors à un long trajet, comme une fêlure du temps perdu. Mais moi, je ne me repose pas, je n'ai pas réservé de couchette. Je reste sur le pont, scrutant la lumière des phares borgnes. As-tu déjà essayé de déchiffrer un alphabet cyrillique sur une mer déchaînée? As-tu déjà eu le mal de mer sur la terre ferme? Accoudé à la balustrade, mon estomac crissabile, me fait vomir chaque odeur, chaque son, chaque lumière. J'ai l'impression que les embruns m'attaquent de l'intérieur. Je suis trop vivant et personne ne s'en rend compte. Je cherche à me concentrer sur l'horizon pour stopper le tangage, mais j'avais oublié qu'il n'y a pas d'horizon pour les aveugles. Les autres passagers sont tous assis à l'intérieur dans les gros fauteuils des salons. Ils ne me voient pas. Je ne les vois pas non plus d'ailleurs, à cause de la houle qui s'écrase sur la vitre. Comme je m'y attendais, les heures s'égrènent. Et là, à l'instant même où j'attrape du regard une goutte d'eau qui se dessine sur cette vitre, une simple vitre entre eux et moi, je me mets à penser à ma voiture, seule dans la cale de ce flottant. Et cette idée me fait rentrer dans une mélancolie folle. Du mauvais côté de cette putain de vitre, toujours et jamais seule, comme une ombre, collée à mes basques, elle est là, avec moi. Un pas de côté ne sert à rien. Je n'en ai de toute façon pas la force. Et puis à quoi bon? Elle est sans doute de bonne compagnie depuis le temps. Comme une mort parmi d'autres. Faut bien en avoir une, non? Elle est de ses présences rassurantes, comme un petit litron quotidien. Elle me quittera jamais, celle-là. Elle arrivée au port n'est toujours pas prévue.
J'ajoute encore une considération.
Esther Lardreau, philosophe.
On pourrait supposer que la musique pourrait avoir un rapport privilégié à la migraine. C'est que le migraineux n'arrive pas à dire sa souffrance, n'arrive pas à dire autre chose que j'ai mal à la tête et à dire j'ai la migraine, une pure déclaration, et il lui est très difficile d'écrire. Par ailleurs, depuis Balzac, on nous dit que la migraine est sans symptômes visibles et que n'importe qui peut contrefaire la migraine. Donc le migraineux a un rapport extrêmement difficile aux images. Du coup, il y aurait une voie privilégiée pour parler de la migraine. Ce serait ni par les mots, ni par les images, mais par les sons.
Ce qui m'intéressait, c'était est-ce que c'est possible de traduire cet état de manière sonore ou musicale?
Bruno Flotello, compositeur.
Parce que ça fait partie, c'est une des choses que j'aime bien... dans mon travail, c'est essayer d'exprimer des choses de manière assez ressentie, le moins intellectuellement possible, et travailler plus, ouais, le moins possible sur le cérébral, le plus possible sur le physique. Et, donc là, sur la migraine, voilà, j'ai réfléchi abstraitement pour essayer de me construire une idée de la chose, et ensuite, j'ai essayé de débrancher mon cerveau, paradoxalement pour la migraine, pour faire les choses le plus juste possible. Donc je suis parti, j'avais besoin d'un tapis de fond, parce que pour moi la migraine c'est un état latent et qui dure, et j'ai besoin de quelque chose qui s'installe sur la durée, donc ça ressemble à ça en brut, c'est une grande nappe symphonique, mais qui étaient trop distinctes. Donc j'ai commencé par un procédé de montage de superposer deux pistes, une à l'endroit, une à l'envers. Et donc ça crée une espèce de bouillie. C'est ce que je cherchais. Je cherchais ça. Peu importe qui est le compositeur, ça m'intéressait pas trop. Il me fallait une note unique et étale. Donc ça ressemble à ça. Voilà, sauf que là, en l'état, ça évoque plus cela. C'est très beau, très positif, c'est la découverte du nouveau monde, et c'est pas du tout ce que je voulais raconter. Donc, après, il s'agit de déstructurer, de détruire le son pour arriver à quelque chose qui évoque plus ce que je cherchais. Donc, je suis arrivé à ça. Donc, on reconnaît plus forcément la nappe symphonique, mais ça m'intéresse pas. C'est juste c'est la structure et le timbre qui m'intéresse. Et là, pour moi, enfin, tel que je perçois, que je ressens la migraine, c'est une donnée de base. C'est une définition possible de la douleur qui n'est pas insupportable, mais qui est gênante. Ensuite, partant de là, quand la douleur devient moins supportable, y a forcément la nausée qui va avec. Donc il a fallu que je trouve quelque chose qui évoque plus ou moins la nausée. Et donc je suis arrivé à quelque chose comme ça. Donc une espèce de va-et-vient, c'est la même nappe qu'au départ, mais qui va intervenir en se croisant avec la première pour apparaître, disparaître, comme la nausée le fait dans ces cas-là. Donc avec ça, j'avais l'impression de tenir un peu la base du morceau. Ensuite, je me suis rendu compte que la migraine, c'est pas du tout que une douleur étale, c'est aussi des ruptures. Donc déjà, le premier truc, c'est que la migraine, comme son nom l'indique, c'est une moitié de quelque chose. Donc pour moi, au niveau sonore, c'est forcément une moitié de stéréo, et c'est forcément jouer sur la spatialisation du son et avoir des ruptures brutales entre la stéréo, la gauche, la droite, et rendre travailler pour que l'écoute, par exemple, au casque soit la plus inconfortable possible. Quand il n'y a qu'une oreille qui travaille, c'est une manière d'évoquer ce qu'est la douleur de la migraine. Donc voilà, ça c'est la spatialisation. Ensuite, il y a des choses qui n'évoquent pas directement la migraine, mais que j'avais envie de voir apparaître. C'est d'évoquer à quel point ça influe sur nos perceptions sensorielles. La migraine, ça influe sur la vision. On a des éclairs, des flashs. Et puis au niveau auditif, on perçoit des choses de manière biaisée. Des choses totalement anodines deviennent insupportables. Des choses basiques et binaires deviennent aléatoires. Donc j'ai essayé d'amener ça avec un rythme que j'ai là aussi transformé pour lui donner un côté arythmique. Et ça ressemble à ça. Voilà, et dans le même registre d'idées, il y a au niveau sonore le moindre bruit sec, des clés qui tombent par terre, un couteau qui tombe dans l'évier ou quoi que ce soit, ça peut devenir des déflagrations insupportables. Donc voilà, il fallait évoquer ça. Voilà, donc ça c'est des petites choses par exemple qui arrivent ponctuellement tout au long de la pièce pour rappeler ça. Voilà à peu près comment j'ai construit mon morceau.
je m'attendais à trouver dans les descriptions laissées par les textes de Migraineux la mention récurrente de l'hérédité. Ça se trouve dans les textes médicaux, en effet, mais pas beaucoup chez les textes des Migraineux. Et ce qui, chez eux, est au contraire récurrent, c'est une espèce de constitution d'une communauté silencieuse, secrète, un peu comme une sorte de secte, quoi, de gens qui se reconnaissent entre eux, sans avoir un mot à dire. Ils savent qu'ils sont migraineux. Et une famille, quoi. Une famille qui n'a rien à voir avec la famille biologique, qui est une famille de migraineux.
Bah là, on se trouve dans mon appartement, dans ma chambre. Une petite pièce, quasiment uniquement occupée par le lit.
Émilie Barbier, scénographe.
Dans cet appartement, c'est la pièce où j'ai eu toutes mes crises de migraine depuis que j'habite ici, ouais. Pour moi, c'est toujours assez difficile de qu'il puisse y avoir un regard sur ça. C'est un tel état de faiblesse. Et puis c'est un état qui me met en colère. Donc ça me met en colère d'être incapable de me lever pour faire manger ou boire ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est un moment où j'aspire toujours à être absolument seule pour pas qu'on le voie, pour pas que personne n'assiste à ça, en fait. Du coup, dans la colocation, c'est... je m'enferme et je disparais, quoi.
J'ai un peu le sentiment que être migraineux, c'est faire partie d'une congrégation un peu secrète de gens qui souffrent d'un mal qui est difficile à décrire, mais qu'il existe une compréhension entre les migraineux.
Ben oui, c'est quelque chose que je ressens, justement, je pense, parce que il y a globalement une difficulté à comprendre cet état-là quand on l'a jamais vécu. Et le terme de congrégation est assez drôle parce que à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui me dit être migraineux, il y a comme une presque un sentiment de sympathie qui arrive tout de suite parce que c'est comme de reconnaître un autre. Se reconnaître tout de suite dans l'autre, il y a un côté un peu âme sœur de difficultés, ou je sais pas comment dire, mais... Mmh. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai su que mon colocataire Guillaume était migraineux. Ça m'a fait plaisir, c'est idiot, parce que c'est évidemment un truc qu'on souhaite à personne, mais... Mais oui, il y a quelque chose qui... Ça fait une sorte de lien, quoi. Ça crée un lien.
Alors, si on commence à parler de cet état, est-ce que c'est possible de le décrire avec des mots, cet état ?
Ben, jamais complètement, j'ai l'impression. Surtout que pour le faire vraiment, il faudrait presque le faire... Sur le moment, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose pendant la crise où on n'arrive plus à concevoir que ce soit possible de pas avoir mal. Et il y a aussi toujours quelque chose après où on se dit que où on n'arrive pas à concevoir d'avoir eu aussi mal et que ça soit terminé. Et d'ailleurs, ce moment-là où ça s'arrête, c'est assez subi. Ça peut passer de Enfin, quand je dis subit, je veux dire, ça arrive subitement. Ça peut passer tout d'un coup d'une douleur quand même vachement forte à plus rien, comme si on éteignait la lumière. Et pour la décrire vraiment, il faudrait pouvoir la décrire en souffrant. Et à ce moment-là, c'est pas possible, en fait. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de capacité à formuler quoi que ce soit. Mais il y a toujours quelque chose qui est moins fort quand on y pense, ou quand on le dit, ou quand on essaie de le dire.
Ce que je trouve intéressant avec cette douleur particulière, c'est que c'est pas seulement une douleur dans le présent, dans la présence de la crise. C'est que c'est une maladie qui vit dans l'anticipation aussi de la crise, et qui vit dans la suite, quand la douleur s'est arrêtée. Dans mon cas, quand j'ai été en crise pendant 4 ou 5 jours et que la crise semble s'être arrêtée, j'ai presque le sentiment d'une douleur fantôme, comme si il me manquait un membre et que je le sentais encore. Et des fois, je suis dans le doute, je ne sais plus si j'ai mal ou si c'est le souvenir de la douleur que je suis en train de ressentir.
Ça, c'est vrai que c'est étonnant d'être emmerdé quand c'est là et emmerdé quand c'est pas là, et emmerdé tout le temps, en fait.
Pour ma part, je me suis toujours considéré comme vieux, comme avoir un corps de vieux quand je suis dans la douleur. Et pendant des années, j'ai eu cette douleur quotidienne. Et je me suis toujours senti, avec un corps qui n'était pas le mien presque. Donc j'ai le sentiment que c'est une maladie qui change vraiment le rapport à son propre corps, tout le temps.
Moi, j'ai l'impression que ça le change pendant la crise, ça c'est sûr. De toute façon, le corps ne sert plus à rien dans ces moments. Enfin, non seulement il ne sert à rien, mais il empêche tout, donc. Pour moi, souvent, c'est quand j'arrive à l'associer à un état d'esprit ou à un sentiment, c'est toujours la colère. C'est toujours. Quand j'ai une colère que j'ai pas exprimée ou que j'ai exprimée peut-être pas suffisamment, je sais pas, mais c'est vraiment lié à la colère ou la contrariété. Ça, c'est vraiment récurrent. Comme au fond, on n'arrive pas trop à savoir d'où ça vient, de se dire que c'est soi-même, son esprit qui le génère, et c'est hyper troublant, ça. Parce que ce soit le corps ou l'esprit, d'ailleurs, c'est soi, quoi. C'est soi qui génère un truc qui empêche. C'est tellement fondateur de ce que je suis et de la façon dont je vis, que j'ai du mal à imaginer quelle personne je serais si j'avais jamais mal, s'il n'y avait pas ça qui planait toujours. Et il y a effectivement un truc presque effrayant à... Ouais, ça m'est déjà arrivé de me dire que je deviendrais comme tout le monde si j'avais pas ce truc, tellement ma façon de voir les choses est liée à ça. C'est ce truc de fuite en avant. Des fois, il y a ça dans la crise de migraine où on n'arrive pas à en voir le bout. Et c'est toujours exponentiel. On a l'impression, il y a des moments, on a l'impression que ça ne peut pas s'arrêter. Même si on sait que ça va s'arrêter. Et dans mon cas, ça s'arrête au bout de 48 heures. C'est hyper réglé. Une crise, c'est 48 heures. Et malgré le fait de le savoir, pour l'avoir vécu des centaines de fois, il y a toujours un moment où j'ai l'impression que ça va pas s'arrêter. Les pieds ne ne sentent plus la caresse fraîche du parquet. Les mains ne sont plus en appui sur les paumes. Le corps, long à nouveau, est pris dans la touffeur inerte de la toile. Le mouvement n'a pas eu lieu. Le mouvement est un mirage, un rêve qui se répète inlassablement. Mais le corps reste prisonnier de lui-même. Les paupières s'abaissent, le noir soulage. Mais le ray de lumière apparaît de nouveau. L'avant-bras se pose sur les yeux clos, la pression soulage. Mais le ray de lumière apparaît de nouveau. Plus le noir se fait noir, plus le trait de lumière se fait brillant. Et il brûle maintenant à l'intérieur des paupières incandescentes. Repli. La fenêtre n'a plus de poignée, les murs n'ont plus de plafond, le lit n'a plus de cadre. Le corps tangue dans un vide absolu, un vide qui n'est plus ni de l'air, ni de la chaleur ou de l'humidité. C'est un vide qui ne se laisse plus ressentir. Le corps est une coquille, les parois de la coquille sont dures, les bords de la coquille sont acérés. L'intérieur et l'extérieur de la coquille sont maintenant confondus. Elle s'est refermée sur son mal et le protège comme une perle précieuse, inamovible.
Voilà, les, si vous voulez, ces modifications sensitives que sont les symptômes migraineux donnent lieu à une poésie de l'univers. Il se passe quelque chose d'étonnant, c'est que la migraine produit un monde. Elle produit un monde et en même temps, on pourrait dire qu'elle produit un sujet. Elle produit une subjectivité.
Georges Sand, c'est une vraie migraineuse qui s'enferme dans le noir quand elle est vraiment quand le marteau sonne trop fort dans sa tête.
Jean-Yves Patte, historien de la musique,
aménage des horaires de travail et impose ça même à son entourage à mesure que sa vie se déroule et sa vie avec Chopin. Elle profite de la nuit, du calme de la nuit, du silence absolu. Bon, vivant avec un musicien aussi, il y a peut-être une part d'équilibre à trouver entre la musique extérieure de Chopin et la musique intérieure des mots de Georges Sand. Donc la nuit était sans doute plus favorable pour elle. Et puis ensuite, elle se repose. Et on sait très bien que lorsqu'on va à Nohant ou à Paris et que la phrase « Madame repose » est dite, bon, le silence est de rigueur et éventuellement, si on peut délayer la visite et revenir plus tard, c'est bienvenu. Oui, c'est une grande migraineuse. Et alors, elle a rencontré dans sa vie Honoré de Balzac. Alors, Honoré de Balzac lui propose, lui qui aussi est un être qui a besoin de stimulants pour surmonter des douleurs aussi autant physiques que morales, lui propose de fumer. Alors, parce que, dit-il, fumer, c'est avaler du feu. Et ce feu extérieur qui passe à l'intérieur, que Georges Sand absorbe sous la forme de cigares, de cigarettes, elle devient une grosse fumeuse, elle roule ses cigarettes à longueur de journée, elle fume, il paraît qu'elle empeste le cigare, il y a plein de dessins de son fils Maurice, où on la voit dans des nuages de fumée, les yeux mi-clos comme ça, vraiment elle profite de son cigare. Et bien le cigare, le tabac, a la réputation de soigner les maux de tête. Ça fait éternuer et ça désencombre le cerveau. Donc je crois que comme la migraine encombre le cerveau, l'image est assez, assez forte et ça désencombre le cerveau. Et Georges Sand attribue la migraine au nerf. Elle pense qu'elle est douée d'une nature volcanique et qu'à un moment, les nerfs, sa constitution intérieure se dérègle ou il y a trop de tension et naît alors la migraine. Charles Valentin Alcan, un personnage assez étrange qui appelle ses migraines, qui les appelle au sens premier, c'est-à-dire qu'il attend de les avoir pour parfois se retrouver dans un état de stimulation intellectuelle en dehors des sentiers battus. Il appelle ça, c'est une migraine exquise. Et il y a un grand nombre de ses œuvres qui portent la trace, alors là, directement de ces migraines. Et je vous propose d'en entendre une qui s'appelle Le tambour bateau-chant, alors qui à la fois est un petit quelque chose de militaire, mais qui en même temps ressemble bien à cette pulsation, vous voyez, qu'on peut avoir quand on a une migraine. Et il y a des sortes d'hallucinations musicales qui vont arriver et se greffer là-dessus. C'est assez passionnant.
Au moment de l'invasion, la vue est moins nette. On éprouve une sensation très analogue à l'éblouissement. Il semblerait qu'un nuage se manifeste au centre de l'image qui se peint sur la rétine. Peu à peu, le point terne qu'on observait s'étend. Bientôt, et après une ou deux minutes, se dessine, à l'entour de l'espace obscurci, un arc de cercle lumineux. L'arc lumineux finit par disparaître lorsqu'il arrive à l'extrémité du champ de la vision.
On pense souvent que la migraine, c'est juste du mal de tête, et en fait, pas seulement.
Julie Briet, bibliothécaire.
Parce qu'en fait, les migraines avec aura, avant que la douleur ne se déclenche, il y a tout un tas de signes annonciateurs plus ou moins gênants. Donc ça peut être des troubles de la vision, des troubles de la parole, des troubles de la mémoire, un engourdissement d'un côté du corps. Et du coup, bah, c'est ce qui m'arrive de temps en temps quand j'ai une migraine accompagnée. Donc en général, ça commence toujours par la même chose, c'est-à-dire par des petits troubles de la vision. J'ai le champ de vision qui se rétrécit, puis qui commence à scintiller sur les côtés. Donc la première fois que ça m'était arrivé, je pensais que c'était la persistance rétinienne, enfin que c'était une lumière forte qui restait. Et en fait, j'ai essayé de la regarder en face et elle fuyait complètement. Et donc en fait, voilà, c'est des espèces de petites boules de lumière qui scintillent à la frontière du champ de vision. Et puis après ces troubles de la vision viennent les premiers engourdissements. Donc ça commence au départ par des petits fourmillements au bout des doigts, au bout des orteils. Puis ça grandit. En général, il y a le visage après. Donc c'est toujours que sur un côté. Souvent, moi, c'est le côté droit. Donc la joue qui commence à avoir des fourmillements, la langue, la glotte, ce qui est très très gênant. Et puis après, une fois que ces fourmillements sont bien installés, je commence à avoir des difficultés à parler, à communiquer avec les autres. Donc pour décrire un petit peu comment ça se passe, en général, de façon normale, on pense à une idée et puis on arrive sans difficulté à la formuler en phrases, en mots. Et en fait, cette transformation de la pensée en mots, en fait, pendant mes auras, qui précèdent la migraine, ça fonctionne plus. C'est-à-dire que j'ai l'idée, mais je sais pas comment la formuler.
Richard Wagner, c'est un personnage complexe aussi. Le terme de génie est appliqué souvent à Richard Wagner, c'est pas galvaudé. Et ça n'en reste pas moins un homme de chair et de sang, comme nous tous. Et lui aussi était sujet à des douleurs. Et alors, il avait une vue fragile, et quand il était fatigué, paraît-il, il avait un léger strabisme qui s'installait et qui lui déclenchait des migraines ophtalmiques terribles. Or, plutôt crever que d'admettre qu'on puisse avoir le moindre défaut. Il refusait de porter des lunettes, il refusait de s'arrêter de travailler. Et donc, il y a plein de témoignages, et lui-même d'ailleurs, dans sa correspondance et dans ses conversations, s'en plaint. Il a des migraines terribles qui le laissent quasiment terrassé, mort, épuisé. Alors, il va se les approprier plutôt que de les gommer et de passer à côté. On peut essayer d'en trouver la trace dans son œuvre. Peut-être qu'on peut aussi rentrer dans la tête de Wagner et sentir des douleurs. Alors, il y a plusieurs exemples. On va peut-être retenir simplement le début de l'anneau des Nibelungs, des Ring des Nibelungs, où on entend des bruits répétés qui vont finir par être des bruits de forge. C'est assez puissamment monté, c'est-à-dire que c'est encore une manière de dominer la douleur. Maintenant, les choses changent, mais on le sent bien, il y a toute une sorte de prélude de tapis musical qui quand même inspire un malaise, un mal-être qui peut-être est une vision de ce qui se passe dans la tête. Voilà, ça c'est les coups de forge, c'est pas mal non plus quand on a la migraine. Voilà, c'est une façon de voir les choses qui est pas mal, je trouve. L'enclume est utilisée dans la pharmacopée populaire pour faire passer les névralgies et les maux de tête. On allait, paraît-il, dans les forges, dans les villages, et si on est de petite taille, on se couche sur la forge et on frappait la forge, et l'enclume, les vibrations générées par l'enclume remettaient en ordre les nerfs, hein, si cher à George Sand. Et si on est plus adulte, on saisit l'enclume à pleine main pendant que le forgeron frappe, une espèce de puissance comme ça. Et c'est vrai que bon, le forgeron, celui qui touche le métal dans les sociétés antiques et traditionnelles, c'est un être tout puissant, hein. et son enclume, donc l'objet central de sa forge, détient aussi une partie de sa puissance capable de guérir.
Quand pendant l'aura, donc ça me ferme complètement au monde parce que moi je n'arrive plus à communiquer vers l'extérieur. Et en fait, pendant la douleur, je me ferme à nouveau au monde, mais de façon différente. C'est-à-dire qu'avec la douleur, en fait, tout le monde extérieur devient agression. C'est-à-dire que la lumière devient agression, le son devient agression. Quelqu'un qui s'adresse à moi, ça devient agression. Un bus qui arrive en retard alors que j'ai envie de rentrer chez moi, ça devient agression. Et donc, du coup, moi, c'est ma technique pour gérer la migraine, enfin, gérer la douleur de la migraine. C'est vraiment de me créer ma bulle et me fermer complètement aux sollicitations extérieures et après me mettre dans une pièce noire, sans bruit, et essayer de trouver le sommeil jusqu'à ce que je ressorte de ma bulle et que je puisse reprendre une vie normale, une existence tout à fait ordinaire, et mes activités quotidiennes.
Centre des urgences céphalées de la Riboisière. Toi qui m'accueilles quand la traversée en mer est trop longue, quand la tempête est trop forte. Une porte rouge, lourde, te coupe du reste du monde. Une porte capitonnée, qui empêche le bruit extérieur de rentrer. Chez toi, l'éclairage est léger, lumière tamisée bleue. et les silhouettes des autres invités se dessinent dans l'ombre de leur box. Allongés sur le côté, ramassés sur eux-mêmes, ils attendent l'épilogue.
On va déjà faire répondre à votre question, parce que vous êtes perdu.
Dominique Valade, neurologue.
Il existe deux types de céphalées, les céphalées primaires et les céphalées secondaires. Les céphalées primaires, c'est celles dont on n'a pas de cause curative. Et les céphalées secondaires, c'est celles pour lesquelles il suffit de se soigner la cause et on va résoudre le problème de la céphalée. Par exemple, une dissection de carotide, ça fait mal à la tête. Une thrombophlébite cérébrale, ça fait mal à la tête. Une méningite, ça fait mal à la tête. Une sinusite, ça fait mal à la tête. Dans la maladie migraineuse, comme dans l'algie vasculaire de la face, qui sont des céphalées primaires, on n'a pas de cause curable. La maladie migraineuse, c'est une céphalée, c'est-à-dire c'est un mal de tête, mais qui a une origine génétique. Et donc, pour l'instant, on ne sait pas faire des thérapies géniques, donc on n'a pas de solution pour guérir cette pathologie. On a simplement la possibilité de diminuer le nombre, la durée et l'intensité des crises, mais on ne sait pas guérir la maladie elle-même. On est migraineux de sa naissance à sa mort. Je ne comprends pas votre question. C'est seulement génétique? Oui, bien sûr, c'est seulement génétique. La cause, c'est génétique. Et ensuite, vous avez des facteurs déclenchants. C'est-à-dire que vous avez peut-être 15 millions de Français qui ont une anomalie sur le gène, mais vous avez simplement 12,5% de la population qui souffre de crise de migraine parce que ils ont été en contact avec un facteur déclenchant et qui a sensibilisé leur récepteur, et donc après ils sont sensibles à plein de choses qui déclenchent des crises de migraine. Mais si votre seul facteur déclenchant c'est moins 40 et que vous n'alliez pas vivre au pôle Nord ou que vous ne mettiez pas votre tête dans le congélateur, vous n'aurez jamais mal à la tête. Enfin, vous n'aurez pas de crise de migraine.
Liste des thérapies. Acupuncture chinoise et taïwanaise tung, acupression, relaxation, méditation, néphrologie, psychothérapie, phytothérapie, aromathérapie, ostéopathie, homéopathie, kinésiologie, chiropraxie, magnétisme, Reiki japonais, régime signalé sans gluten, sans laitage, arrêt définitif de l'alcool, traitement de fond, bêta bloquant, alpha bloquant, anti-sérotonine, inhibiteur calcique, antidépresseur, diclofénac, naproxène, dergotamine, intralgis, Vidora, Nocertone, Sibelium, Desernil, Laroxine, Avlocardil, Métoprolol, Migristène, Topiramate. Traitement de crise. Maxalt, Micprive, Profenig, Triptan, Naratriptan, Prozotrip, Sumatriptan, Tesatriptan, Isima, Imigrane, Inject, Spiffen, Nureflex, Ilzomidon, Paramig.
Il y a trois grandes caractéristiques dans la maladie migraineuse, c'est la photophobie, gêne à la lumière, la phonophobie, gêne au bruit, et l'osmophobie, la gêne aux odeurs. C'est comme ça. Ce sont des facteurs qui font partie de la maladie migraineuse et qui peuvent être aussi des facteurs déclenchants. Je m'en excuse. Oui, allô? Bonjour, madame. Oui. Mais attendez, parce que ça a continué les problèmes? Enfin, quel médicament vous prenez? Oui, mais ça peut donner des troubles du sommeil, la blocardine, ça, on s'en doute. Hein. Mais l'autre, c'était quoi? Sibelium. Ah ben, le Sibelium, ça fait dormir, au contraire. Ouais. Que la blocardine. Et tous les troubles ont disparu, sauf vos problèmes de sommeil. Ben, vous prenez toute votre blocardine le matin. Combien vous en prenez? Un demi le matin. Et combien le soir? Un demi matin et soir. Ben vous prenez un demi matin midi. Voilà. Ben non, pour l'instant. Enfin, si, remettez-le, et si vous, les troubles réapparaissent, ben on saura que c'est ça. Hein ? Voilà, et vous l'arrêterez. Voilà, au revoir. De rien. Il faut comprendre qu'avant l'arrivée des triptans, qui sont des médicaments extraordinaires, qui sont des médicaments de crise, ça c'est l'arrivée, c'était 1990 dans le monde, et malheureusement 1997 en France, parce que pour des raisons financières, on a mis très longtemps à les avoir. Il faut savoir que depuis cette arrivée, ça a complètement changé la vie des migraineux.
Liste des effets indésirables des triptans. Étourdissement, maux de tête. Sensation de fourmillement ou de picotement sur la peau. Somnolence. Sensation de chaleur. Sensibilité accrue du toucher. Rythme cardiaque irrégulier. Douleur dans l'abdomen. Nausée. Vomissement. Bouche sèche. Colique. Faiblesse musculaire. Douleur musculaire. Pression au niveau de la gorge, du cou, des bras et des jambes ou de la poitrine. Rythme cardiaque accéléré. Augmentation de la pression artérielle. Vasocontraction artérielle. Possibilité de spasme coronarien. Augmentation du volume des urines. Trouble de l'humeur, trouble du goût, bourdonnement d'oreille, fatigue. Réaction allergique. Chute des cheveux. Gonflement du visage. Serrement au niveau de la gorge. Diminution des globules blancs. Diminution des plaquettes. Insuffisance de la moelle osseuse. Crise cardiaque. Diminution de la circulation sanguine, des intestins ou de la rate, provoquant un infarctus intestinal. Crise convulsive. Je n'ai plus mal à la tête. Je suis mort.
Oui, mais ça, il faut comprendre un truc. Non à la douleur, ce n'est pas une fatalité. Hein. C'était le nom d'un bouquin que j'avais écrit il y a une vingtaine d'années. Parce qu'il n'y a pas de fatalité. Hein. On ne doit pas s'habituer à vivre avec sa migraine. On peut considérer sa migraine comme quelque chose que l'on a en soi, hein, mais on doit tout faire pour essayer de la combattre. Et ça se combat très bien. Donc non, on ne doit pas... C'est un raisonnement qui est... Vous savez, les raisonnements où on vous dit « Votre grand-mère était migraineuse, votre mère était migraineuse, vous, le serez, vous l'êtes vous aussi », c'est ridicule. C'est vrai, mais c'est ridicule de donner ça comme... de la part d'un médecin, c'est ridicule. Votre concierge, je comprends qu'elle vous dise ça, pas un médecin.
Le coton et lumière, scintillant, présent, fuyant. Il grossit, se floute, se cache, s'installe. Le coton est sensation, engourdissement, rampant, grignotant. Doigts, joues, glotte, poignets, jambes tout entières. Ne laisse que la gravité de cette moitié de corps. Le coton est silence, dans la bouche, brise les phrases, mange les synapses, noie ce que je pensais savoir, ferme au monde mon demi-moi. Le coton est pulsation de ma moitié vive. Il s'installe, plante ses griffes, prend ses aises, dans le noir, le silence. Ton rythme brutal, éphémère. Le coton est souvenir, latence, absence, soulagement. Les seules ressources qu'on peut utiliser pendant la crise de migraine sont intérieures, en fait. Et du coup, c'est nécessairement... Moi, mes ressources, c'est dans l'imaginaire.
Est-ce que ça te dérange, fiston ? Tu as la tête qui tourne, comme si tu allais t'évanouir ?
Non, monsieur.
Bien.
C'est parce que tu écris, Saad. Ça a commencé pratiquement en même temps que tu t'es mis à écrire des histoires. Assis des heures, dans la pénombre. Mm-hmm. Ça viendrait pas de ça, docteur ? Est-ce qu'il aurait pas fait trop d'efforts oculaires ?
C'est possible, mais ces sons, c'est... C'est bruit d'oiseau qu'il entend. Il arrive parfois qu'un bruit ou une odeur soit plutôt le signe d'un mal. Plus grave que la fatigue oculaire. Je ne pense pas qu'il y ait urgence, mais il faut surveiller ça de près. Tu veux devenir écrivain, paraît-il ?
Oui, docteur.
S'il est à ce point décidé, vous devriez lui acheter une machine.
The power was good and sympathy sufficient. The patient reacted in a spontaneous and normal manner. I decided to study and counsel the patient.
You all right, Cody?
Yeah. Just can't sleep, that's all.
The headache gone? Then why can't you sleep?
Your headaches surely had a physiological origin, and since the war, they may have become psychogenic. Your body has healed, but when your mind is in pain, the headaches come back. It feels pleasant to feel unjustly wronged.
Max, ça ne va pas?
But you must tear yourself away from the past.
Like having a red hot buzzsaw inside my head.
17h55. Commentaire. Deuxième crise en 24 heures. J'ai pris 80 mg de chlorpromazine et 6 mg de sumatriptan par voie orale, ainsi qu'un millilitre de méthane de dihydroergotamine en intramusculaire.
Je t'ai déjà parlé des migraines que j'avais, est-ce que je t'ai parlé des sons?
Des sons? Non.
J'entendais des bruits d'oiseaux. Mon cerveau refusait de croire ce que je les entends avec.
Il essayait d'occulter 14h50 la logique, comme s'il ne pouvait pas voir ce qui remettait en cause mes convictions les plus profondes. 15h10, il s'est arrêté avant de comprendre. Il a préféré reculer que d'affronter une véritable. 16h55, si sa vue est sûrement celle de la planète tout entière. 10h35, le mystère de l'univers, la quête d'une humaine. 9h15, dans l'obscurantisme. Et moi, je commence à voir.
Life will still happen to you. Later on, if ever the headache comes back, figure it out.
I know myself better than anyone else does.
Balzac nous décrit la vie migraineuse puisqu'il nous dit que le migraineux est contraint de suivre un emploi du temps extrêmement précis pour essayer d'échapper à la crise, qui est toujours suspendue à lui comme une épée de Damoclès. Il est contraint de se coucher à des heures précises. S'il se couche trop tôt ou trop tard, pan, la crise arrive. S'il se lève trop tôt ou trop tard, la crise arrive. Et donc, du coup, la seule chose qui, dit-il, peut le sauver, l'épargner, c'est de respecter une régularité, dit-il, monastique. Alors, c'est une régularité monastique dans le temps, dans l'emploi du temps que s'impose le migraineux, mais aussi dans l'espace. Il faut qu'il évite tel type de nourriture, il ne faut pas qu'il boive d'alcool, en tout cas... Beaucoup de migraineux le disent, pas de chocolat, dit-on, pas de nourriture ceci, pas de nourriture cela. Donc tout est réglementé. Il n'y a pas de liberté. Et c'est Zola, je crois, qui nous dit, à propos d'un de ses personnages, que voilà, la liberté du migraineux est morte. Quoi. Il n'y a pas de liberté et le voilà, ce migraineux, comme un vieillard. Quoi. À 20 ans, comme un vieillard. Voilà. C'est une vie... aucune alors création, là, au sens où un individu peut s'inventer une vie, aucune création de ce point de vue n'est permise.
Je le décèle d'abord à ses traits, même de loin. Je rentre du travail. Et en passant l'embrasure de la porte, je vois ses sourcils froncés, son front tendu.
Coucou, t'as passé une bonne journée?
Je me rapproche, ses yeux n'ont pas l'aspect habituel. Les pupilles dilatées, le regard voilé, il y a peu de doute sur le diagnostic. Je lui demande confirmation, sinon il ne le dira pas lui-même. Il ne veut pas se plaindre, encore moins qu'on le plaigne. Je sais que la soirée ne sera pas comme d'habitude. Pendant le repas, on discute sur le canapé, on se raconte nos journées. Mais ce soir, on a allumé la télévision et on regarde les infos. Je tente de lancer la conversation, mais il n'est pas bavard. Il bute sur ses mots, il les cherche avant de pouvoir les articuler.
Comme si les mots de son vocabulaire s'étaient fanés, qu'il n'avait laissé qu'une légère empreinte en lui.
Je le vois fixer l'écran, passif. Je crois que je pourrais changer de chaîne, il s'en rendrait même pas compte. Alors je le laisse tranquille, dans son cocon de douleur. Quand on a fini de manger, je débarrasse la table. J'ai déjà cuisiné et mis le couvert, mais c'est pas grave. Je vois bien qu'il est incapable de bouger. J'essaye de faire le moins de bruit possible, de me faire toute petite. Je baisse le son de ma voix. Mes gestes sont plus calmes, plus mesurés, presque de manière instinctive. Je me déplace même sur la pointe des pieds. Comme si moi aussi j'étais enfermée dans une atmosphère ouatée. Elle prend toute la place, pour quelques heures ou pour quelques jours. Comme si la vie était entre parenthèses. La lumière, les sons, les gestes, les conversations, tout est tamisé. On ne sait jamais pour combien de temps, tout se fige. Ça se passe au moment de se coucher.
Tu veux un massage ?
On éteint la lumière, toutes les lumières. On recouvre même le radio-réveil.
Allez, allonge-toi.
D'abord, je cale sa tête entre mes cuisses. Et j'appose mes mains sur son front. Je glisse mes doigts derrière ses oreilles. J'insiste sur cet endroit. Je sens que ça l'apaise. Je descends ensuite le long de la mâchoire. Puis je masse le menton, la bouche et les arêtes du nez.
Il m'avait expliqué. Il m'avait même donné le nom de ce nerf qui traverse tout le visage.
Et puis je presse mes doigts sur ses paupières fermées. Longtemps et très fort. Comme pour repousser la douleur le plus loin possible. Petit à petit, je sens son corps qui se relaxe. Terminé, pendant plusieurs minutes, je pose les paumes de mes mains sur ses yeux, comme pour le plonger complètement dans le noir.
Presque pour l'isoler du monde.
Demain, en rentrant du travail, de loin, en passant l'embrasure de la porte, je verrai ses sourcils froncés, son front tendu. Je m'approcherai.
Coucou, t'as passé une bonne journée.
Comme une ombre de Loris Bardi, avec Esther Lardreau, Émilie Barbier, Jean-Yves Pat, Julie Briet, Dominique Valade. Voix, Mathieu Mullier, Camille Nobilio. Musique, Bruno Fletelot, Jérôme Latil. Équipe de réalisation, Manuel Couturier, Lionel Quentin. Équipe de coordination, Alice Ramon, Inès De Bruyne, Irène Omelianenko.
Vous pouvez réécouter, podcaster cet essai radiophonique autour de la migraine, comme une ombre, par Loris Bardi sur le site internet de France Culture. Demain soir, dans les ateliers de la nuit, c'est la rediffusion de l'atelier de création radiophonique d'Elisabeth Butterfly autour d'un inédit de François Truffaut, le journal d'Alphonse, dont elle avait retrouvé plusieurs bobines. Cela aurait été le 5e volet des aventures d'Antoine Doinel. En attendant, il sera bientôt minuit, vous écoutez France Culture et dans quelques instants, vous retrouverez Christine Goémé, l'éloge du savoir.